Bienvenue dans le monde subtil et feutré de Hill. Aujourd'hui, l'Académie française. Le suffixe sert à former des noms féminins à partir de bases nominales, telles Henri, Lettri, de bases adjectivales, telles que brusquerie, mièvrerie, ou encore de bases verbales, fâcherie, rôtisserie. Les noms ainsi formés désignent le plus souvent des actions comme gaminerie ou pitrerie ou des lieux comme parfumerie, brasserie, fruiterie, etc. Quelques-uns de ces mots étonnent par la surprenante évolution de leur sens. Le substantif fumisterie est un nom tout à fait sérieux quand il apparaît dans notre langue en 1845 pour désigner l'activité du fumiste. Ce nom, qui se lit pour la première fois dans la correspondance de Voltaire, désigne alors un artisan spécialisé dans la construction de cheminées qui veille à ce que la fumée ne s'échappe pas dans la pièce où se trouve la dite cheminée. Dans son tableau de Paris, en 1781, Louis-Sébastien Mercier rend un vibrant hommage à cette corporation. Il a fallu faire venir à Paris des fumistes d'Italie, et l'on tire vanité dans quelques maisons d'une cheminée qui ne fume pas. Les fumistes forment une espèce de corps, mais je voudrais qu'en punition de leur ignorance, nos architectes et nos maçons fussent condamnés à donner tous les ans un grand repas aux poêliers et aux fumistes, et qu'ils fussent obligés de les servir jusqu'à ce qu'ils eussent appris à faire une cheminée qui ne fume point. Sans doute est-ce pour les aider dans cet apprentissage que Philippe Ardenny fit paraître en 1828 un manuel du poêlier fumiste avec comme sous-traité titre complet et simplifié de cet art, indiquant le moyen d'empêcher les cheminées de fumer, l'art de chauffer économiquement et ventiler les habitations, les manufactures et les ateliers. Il place en épigraphe cette citation de Benjamin Franklin. On rappellera que ce dernier, surtout connu comme étant un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique et l'inventeur du paratonnerre, est également l'inventeur du premier poêle à bois à combustion contrôlée. Citation qui montre bien la nécessité de son livre. « Si l'on eût proposé un prix pour être chauffé le plus mal possible en dépensant le plus, l'inventeur des cheminées eût certainement mérité la couronne. » Ardenny se présente comme un poêlier fumiste et aussi comme caminologiste, ce nom, qui désigne un spécialiste de l'étude scientifique des cheminées, d'abord qualifié le chimiste Clavelin, auteur d'un ouvrage intitulé « Sur les principes de la statique de l'air et du feu appliqué à la construction des cheminées ». C'était pour le fumiste une glorieuse entrée dans la carrière, et celle-ci s'annonçait d'autant plus prometteuse qu'Ardenny donnait plutôt bien au public, une édition revue et augmentée de son ouvrage, édition pour laquelle il s'était assuré de la collaboration de Julia de Fontenelle, illustre professeur de chimie à l'École de médecine de Paris. Peut-être est-ce d'ailleurs la présence de cet universitaire de renom qui explique que, dans le sous-titre de cette nouvelle édition, l'adjectif « simplifié » est disparu, et que ce sous-titre soit devenu « traité complet de cet art », indiquant le moyen d'empêcher les cheminées de fumer, l'art de chauffer économiquement, de ventiler les habitations, les manufactures et les ateliers. Quelques années plus tard, cette belle réputation était ruinée et la faute en revenait à Félix-Auguste Duvert, Augustin Théodore de Lausanne de Vaux-Roussel et François-Antoine Vermeer, tous les trois auteurs d'un vaudeville intitulé « La famille du fumiste », dans lequel un personnage de fumiste allait répentant après chacune de ses plaisanteries. C'est une farce de fumiste. La pièce est jouée pour la première fois en février 1840 et dès 1852, les frères Goncourt emploient le terme de fumisterie pour désigner ce que l'on ne peut pas prendre au sérieux. C'est à partir de 1885 que le précieux artisan, qu'était le fumiste, voit sa réputation, déjà bien entamée, se ternir définitivement puisque son nom désigne désormais un individu, le plus souvent hâbleur et paresseux sur lequel on ne peut compter, c'est-à-dire probablement un politicien québécois. On continue dans l'Académie française après un bon rôle. Force est de constater, on hésite, on diffère, on balance, on flotte, on louvoie, on oscille, on tâtonne, on temporise et on tergiverse. On atermoie encore un peu, mais on ne barigouine plus guère. En général, ce sont des vers du troisième groupe qui, peu à peu, ont perdu certaines formes, parce que leur conjugaison était un peu trop irrégulière. Barigouiner, verbe du premier groupe, n'aurait dû rien avoir à craindre, mais aujourd'hui, on ne le rencontre qu'à l'infinitif et presque toujours dans la locution adverbiale sans baragouiner. Pourtant, il était encore conjugué au présent, sans toutefois noter le G de la dernière syllabe. Dans la dernière édition du dictionnaire de l'Académie française, les marchands n'aiment point ceux qui baragouinent. Au Moyen-Âge, quand l'orthographe flottante faisait que l'on pouvait écrire qu'une quinzaine de manières, on usait de ce verbe à tous les temps. Dans le roman du châtelain de Cucci, il était à l'imparfait, l'UEC trouvère, leur dame qui remoua les giots et les baragouillots. Là, ils trouvèrent leur maîtresse qui déplaçait les bijoux et les marchandais. Et au passé simple, et quand plus rien ne baraguina, sa marchandise appareilla. Et quand il ne vendit plus, il rangea sa marchandise. Dans son histoire de Saint-Louis, Joinville l'emploie au passé composé. Avez-vous baragouiné? Nuit Chevalier, dans une ordonnance sur le commerce du poisson de mer publiée dans le nord de la France, ce qui explique que l'initiale de ses formes soit en V et non en B, on le rencontre aussi au futur. Varguingueur, qui varguinga le poisson, et comment ça qui vendra du poisson? Cette multitude de formes s'accompagnait d'une grande variété de sens. Baragouiner signifiait, au Moyen-Âge, à la fois commercer, marchander, mettre à mal, défendre, batailler, mais aussi amuser, tromper. Dans ce verbe étaient tirés différents noms. Bargaigne, commerce, marché, gain, profit, affaire, délai, sollicitation, tromperie, bargaigneur, marchand, trafiquant et bargaining, propos, paroles, contestation. La quinzaine de variantes de l'ancien français est un héritage de la dizaine de variantes du latin médiéval, parmi lesquelles figurent principalement barcaquer et barganière. On considère aujourd'hui que ces diverses formes latines sont empruntées du francique borgien, commercer, un croisement de borgung, prêté, emprunté, et de waidanjan, gagné, même si Diez pensait que ce mot était relié à barca, barque. Cette dernière servait, d'après Isidore de Séville, à porter les marchandises d'essa de là, de sorte que barcanière signifiait porter en barque, puis simplement transporter ses marchandises. Ensuite, comme l'écrit Littré, de marchander, bargouigner, a passé par une dérivation que l'on conçoit au sens d'hésiter, tergiverser. De cette grande richesse de forme, il ne reste aujourd'hui presque plus rien. Mais on se consolera en se disant que ce verbe survit outre-Manche avec le verbe « to bargain » que nos amis anglais nous ont emprunté au Moyen-Âge. Être un cordon bleu signifie être un très bon cuisinier à l'origine. Cette expression n'a pourtant rien à voir avec les petits plats, puisqu'elle trouve sa référence dans les guerres de religion. C'est en 1578, sous l'Ancien Régime, pendant les guerres de religion, qu'Henri III constitua l'Ordre du Saint-Esprit. Cette organisation catholique destinée à lutter contre les protestants ressemblait à des hommes mûrs, de plus de 35 ans, issus de la noblesse. Ce fut le premier ordre de la monarchie française et également le plus prestigieux. Ses chevaliers portaient la croix de Malte, symbole honorifique accroché à un ruban bleu. Cette distinction fut abolie à la Révolution française pour laisser place à la Légion d'honneur instaurée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Néanmoins, le symbole du cordon bleu a continué de représenter une distinction suprême dans l'aristocratie française à travers les siècles. Cela devint même une métaphore faisant référence à la supériorité, à la grandeur et aux honneurs des personnes citées dans un domaine. Au XVIIe siècle, un poète qui lorgnait l'Académie française réussit à en séduire les membres en qualifiant l'Assemblée de « cordon bleu des beaux esprits ». Il fut admis illico. Certains disent que la référence culinaire revient également à l'ordre du Saint-Esprit car les porteurs du cordon bleu avaient pris pour habitude de se réunir comme un club de gourmands afin de cultiver l'art du bien manger et du bien boire. C'est certainement dans cette anecdote que s'est inspiré le journaliste Marthe Distel en 1895. Elle publie le premier journal de cuisine, La cuisinière cordon bleu, qui rencontre un grand succès. Elle ouvre ensuite les écoles Le cordon bleu, très réputées aujourd'hui pour leur apprentissage dans l'art de vivre à la française. L'expression est donc entrée d'usage. À votre avis, cimetière vient-il du nom terre? Après tout, les morts y sont bien enterrés. Peut-on agoniser? Quelqu'un d'injure, certains mots pouvant blesser, on est en droit de se poser la question. Enfin, que signifient les lettres RIP, formule énigmatique qui fleurit sur les réseaux sociaux, comme des chrysanthèmes? Cimetière, regardons son étymologie. Parce que leurs sonorités sont proches et que leurs sens sont liés, on pourrait croire que cimetière et terre sont de la même famille, mais il n'en est rien. Le nom cimetière vient du latin comerterium, lui-même issu du grec koimeterion, qui signifie dortoir, et par extension, lieu où reposent les morts. Quant au cimetière, c'est un sabre oriental à l'arme large et recourbée. Guillotine. C'est bien Joseph Ignace Guillotin, médecin et homme politique français, qui a donné son nom à ce mode d'exécution capital. Pourtant, l'appareil a été mis au point par un autre médecin, Antoine Louis. C'est la raison pour laquelle la guillotine a d'abord été surnommée Louison ou Louisette. Les paronymes maintenant agonir et agoniser. On distingue agoniser, verbe du premier groupe, qui signifie être sur le point de mourir. Et agonir, verbe du deuxième groupe, qui se conjugue comme finir et signifie accabler. On ne dira pas « il l'a agonisé d'injures », mais « il l'a agonie d'injures ». Calciné et carbonisé, paronyme également. Un corps calciné, est-ce la même chose qu'un corps carbonisé? Pas exactement si l'on se fie à l'étymologie. Calciné, c'est transformé en chaux, soit en calque, calci en latin, de son nom savant, oxyde de calcium, minéral de couleur blanche, carbonisé revient à transformer en charbon, roche de couleur noire. Quelques expressions maintenant. Mettre à jour et mettre au jour. Mettons à jour ou au jour une tombe, une sépulture. Mettre à jour signifie actualiser. Par conséquent, si l'on découvre un squelette ou des ossements, on les met au jour, sous-entendu à la lumière du jour, bien entendu, à la vue de tous, pas à jour. Sigi. J a pour infinitif gésir, verbe qui a la particularité de se conjuguer uniquement à l'indicatif présent, à l'indicatif imparfait et au participe présent. Cette mention que l'on pouvait jadis transcrire sur les tombes est une épitaphe. Elle a été peu à peu remplacée par une version plus moderne. Ici repose. Les sigles et les acronymes. RIP, on voit ça un peu partout. Ces trois lettres placées devant le nom d'une personne décédée qui circulent sur les réseaux sociaux sont en signe. Et ça signifie « requiescat in pace » en latin. Mais « rest in peace » en anglais, autrement dit « repose en paix ». Delta, Charlie, Delta. Ces trois mots signifient en alphabet phonétique qu'une personne est décédée. Ce langage codé permettait aux policiers d'échanger des informations sur des fréquences radio potentiellement piratées aujourd'hui avec les réseaux de communication modernes qui sont sécurisés. C'est de moins en moins utilisé, mais l'appellation est quand même restée. Merci d'avoir été à l'écoute de Il, un monde subtil où parfois c'est très feutré.